Chapitre 10. Hilda s'était couchée ce soir-là dans une disposition d'esprit peu satisfaisante. Le hautain mépris qu'elle avait pu lire dans le regard d'Alain quand elle était allée le voir la veille avec Reichensfeld l'exaspérait au plus haut point. Et d'autant mieux que toute sa passion, qu'elle croyait disparue sous la haine, s'était réveillée devant l'officier prisonnier dont la virile beauté, la fierté altière et indomptable la subjuguaient. Dans son âme trouble, que l'habitude du mensonge avait complètement faussée, un plan s'élaborait. Elle avait un caractère tenace et l'intime persuasion qu'elle était en tout, beauté, intelligence, habileté, supérieure à la plupart des femmes. Il lui semblait donc très possible d'arriver par ruse, coquetterie et avec beaucoup de patience à changer les idées d'Alain. Il y avait par exemple Reichensfeld, qui la gênerait, qui réclamerait la mort de son ennemi, Reichensfeld. Il était bien insupportable, ce noble Prussien. Quelque influence que sa fiancée eût su prendre sur lui, il y avait à craindre qu'il fût un mari désagréable. Aujourd'hui même, il avait fait à Hilda une véritable scène parce qu'elle avait donné l'ordre à Léonard de porter au prisonnier un bol de lait, alors qu'il avait été convenu qu'on lui donnerait une nourriture tout juste suffisante pour l'empêcher de mourir de faim trop vite, à l'instar de celle que la généreuse Germanie distribue dans ses camps de prisonniers. Hilda avait répliqué vertement. De là, brouille sérieuse. La jeune femme, ce soir, n'avait pas quitté sa chambre, où elle s'était fait apporter à dîner. Elle se disait « Demain, je le forcerai à me faire des excuses, et je lui déclarerai sans embâge que, s'il recommence, je romprai avec lui. Or, comme il tient encore plus que moi à ce mariage, je le ferai filer doux, de cette manière. » À la suite de cet incident, Hilda avait donc les nerfs quelque peu surexcités. En outre, la tempête faisait rage cette nuit. La jeune femme ne pouvait trouver le sommeil. Et dans cette insomnie, c'était l'image d'Alain de Pavalas qui sans cesse se représentait à elle. Vers 1 heure du matin, lasse de se tourner et de se retourner, elle finit par se lever. Ayant passé une robe de chambre, elle sortit dans le couloir et de là gagna le salon. Mais elle n'y demeura pas longtemps. Tout à l'heure, une idée avait germé dans son cerveau et se développait maintenant. Elle voulait descendre au souterrain, aller trouver Alain, lui montrer quelle sort l'attendait et qu'elle, Hilda, était disposée à le sauver, à s'enfuir avec lui, pourvu qu'il lui promît de ne jamais revoir Florita, de vivre avec elle toujours à l'étranger. Ainsi, chez cette femme pourtant intelligente et qui avait montré plus d'une fois la supériorité de son esprit d'intrigue, de sa méthode d'organisation, subsistait, comme dans la nation à laquelle elle appartenait, une étrange méconnaissance de l'âme d'autrui, une bassesse mêlée à l'orgueil fou qui lui faisait passer outre sur le mépris qu'Alain lui avait jeté au visage et la secrète persuasion que tout, conscience, fierté, parole donnée, devait céder à la ruse et à la force. Revenue dans sa chambre, elle s'habilla rapidement, puis se dirigea vers la chambre d'Even. Les occupants du vieux logis avaient imaginé un système pratique pour démasquer l'entrée des souterrains. En appuyant sur un levier, la dalle se soulevait et en même temps le petit escalier de fer se déployait. Hilda connaissait le système qu'elle avait fait agir plus d'une fois. En un moment, elle fut au bas de l'escalier. Alors, au moyen d'un second levier qui se trouvait là, elle fit retomber la pierre. Puis elle s'engagea dans une des galeries qui s'ouvrait devant elle, après avoir tourné un commutateur qui alluma quelques lampes de distance en distance. Elle atteignit ainsi les 3 couloirs sinueux qui menaient à la petite salle taillée dans le roc où l'on avait déposé Alain, sous la garde d'un des Danois de Spitzfahrer. Ici, la lumière était faible, les Allemands de Kereven n'ayant pas jugé utile d'éclairer spécialement ce boyau. Et tout à coup, la jeune femme buta contre un corps étendu à terre. Elle eut un mouvement de recul. Puis se baissant, elle distingua le Danois, à la vague lueur que projetait jusqu'ici la lampe allumée à l'entrée du couloir. La bête gisait là, morte, avec une blessure à la tête, d'où coulait encore un mince filet de sang qui allait s'ajouter à la flaque répandue autour d'elle. Hilda eut une exclamation étouffée. Puis vivement, elle fit jaillir la lumière d'une petite lampe électrique qu'elle avait emportée, car le logis du prisonnier n'avait pas de moyen d'éclairage. Et elle s'avança vers la chambre rocheuse. D'un coup d'œil, elle vit qu'Alain n'était plus là. Pendant un moment, elle demeura immobile, sous l'empire d'une stupéfaction mêlée de fureur. Enfui ? Il s'était enfui. Mais pas seul, c'était impossible, quelqu'un l'avait aidé. D'ailleurs, sur le sol, il y avait ses liens coupés en plusieurs tronçons. Et là, qu'était-ce que cet objet? Hilda s'approcha, se baissa, prit entre ses mains un béret de marin français, car il portait le nom d'un des cuirassés de la République, et elle bégaya. « les Français sont venus ici. Ah, nous sommes perdus !» Pendant un moment, elle resta immobile, figée par la stupéfaction, puis elle songea. « Mais ils sont encore là, peut-être. Ils guettent sans doute. Si je retourne en arrière, ils peuvent me surprendre, me faire prisonnière. Et les autres là-haut, il faut que je les prévienne. » Elle commença à revenir sur ses pas. Mais il lui sembla tout à coup entendre un bruit suspect. Oui, quelqu'un venait précipitamment. Alors, perdant un peu la tête, Hilda tourna les talons et se mit à courir. Elle passa devant la petite salle qui avait servi de prison à Alain et s'engagea dans le couloir qui continuait au-delà. Il débouchait sur un carrefour de petites voies que Spudsfahrer n'avait pas explorées jusqu'ici, jugeant d'importance secondaire. S'y enfoncer, c'était aller vers l'inconnu, s'égarer peut-être. Pourtant, Hilda voyait là sa seule ressource. Elle comprenait que les Français avaient dû pénétrer dans les souterrains par l'issue secrète de Runesto, qu'ils avaient dû se rendre maîtres de l'équipage du sous-marin. Elle se disait qu'ils pénétraient peut-être en ce moment même à Kerhéven. Et, affolée, elle ne songeait qu'à une chose, leur échapper. Sa petite lampe de poche à la main, elle s'engageait dans le boyau sombre. Bientôt, elle fut au carrefour sur lequel donnaient quatre voies étroites. Hilda prit l'une d'elles, mais dut bientôt revenir sur ses pas, car elle aboutissait à un caveau humide où l'apparition de la jeune femme dérangea une tribu de rats qui s'enfuirent vers d'invisibles trous. Hilda pénétra dans un autre couloir. Celui-là menait à un nouveau nœud de galerie, entre lesquels il lui fallut choisir encore au hasard. Un moment, elle faillit choir dans une sorte de puits à fleurs de terre qu'elle aperçut juste à temps. D'énormes rats, à tout instant, lui filaient entre les jambes. Délogé des parties explorées et occupées par les Allemands, il s'était réfugié dans ces petites artères que les patients occupants d'autrefois avaient creusées dans tous les sens pour faire de leur repère une inviolable retraite. Spudsfahrer et Elmer avaient laissé inutiliser cette partie des souterrains. Et voici que Hilda, remarquant une très sensible déclivité du sol et l'humidité de celui-ci, se rappelait ce que l'ingénieur lui avait dit à ce sujet. Par suite d'un abaissement du sol, ou de toute autre cause, ces galeries, au moment du flux, étaient envahies par la mer, qui montait du puits où avait manqué de tomber Hilda. La jeune femme s'arrêta avec un frisson de terreur. Il était impossible qu'elle continuât. La marée montante était commencée. Bientôt l'eau allait apparaître ici, lentement, sournoisement. Elle revint en arrière. Son énergie commençait de faiblir. Elle grelottait, en outre, dans ces humides et froides galeries. Pour comble, voici qu'elle s'était trompée de route. Pourtant, elle avait noté dans sa mémoire quelques indices, mis à tel endroit un morceau enlevé à son mouchoir. Mais quelques rats sans doute l'avaient emporté. Pendant un moment, elle perdit l'esprit. Tremblante, claquant des dents, elle restait là, ne sachant plus que faire, se voyant perdue. Puis un sursaut de volonté la secoua. Voyons, c'était ridicule de se décourager ainsi. On racontait bien dans le pays que les souterrains étaient un labyrinthe dont on ne pouvait sortir si l'on avait pris, avant d'y pénétrer, la précaution de bien jalonner son chemin. Elmer et l'ingénieur le disaient aussi. Mais c'était évidemment exagéré. Ces artères, après tout, aboutissaient bien à quelque chose. Avec de la patience, Hilda finirait par tomber sur l'un des points qu'elle connaissait et d'où elle pourrait ensuite se diriger à coup sûr vers la sortie donnant sur Kerhéven. Cédant à cette reprise d'énergie, la jeune femme s'engagea dans un nouveau boyau qui s'enfonçait tortueusement dans la nuit.